When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello, hello, bonjour et bienvenue dans la suite des previews de la saison NFL sur Touchdown Actu. Un jour, une preview au programme, les Minnesota Vikings. Lucas Vola, bonjour.
Salut tout le monde, salut messieurs.
Grégory Richard, bonjour.
Bonjour à tous.
On parle donc de Minnesota, 7 victoires, 9 défaites la saison dernière. Du côté des arrivées à l'intersaison, Dalvin Tomlinson, Sheldon Richardson, Patrick Peterson, pardon, Mackenzie Alexander, Xavier Woods et Nick Vigil, notamment en défense, Steven Weatherly aussi d'ailleurs, Mason Cole, Dede Westbrook en attaque, Christian Darisso aussi sur la ligne offensive, qui a été la grande prise de la draft, Kellen Mond, le quarterback également drafté. Ils ont perdu Kyle Rudolph, Riley Reiff, Eric Wilson, Todd Davis, Mike Hughes et Anthony Harris. Les Vikings ont été calamiteux en défense l'an dernier. Est-ce qu'ils peuvent redresser la barre et est-ce que c'est la clé de leur saison, Lucas ?
Oui, oui, il va falloir. Je crois qu'en tout cas, ils l'ont compris et ils l'ont vu, qu'ils étaient catastrophiques en défense et notamment dans la couverture aérienne. Ils ont tenté de faire en sorte de l'améliorer avec beaucoup de recrutement. Tu viens de citer pas mal de noms. Je garderai mon avis pour plus tard. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont une attaque et notamment des skill players qui sont très bons. Dalvin Cook, Justin Jefferson, je pense que Adam Thielen, je pense que voilà, avec ce genre de joueurs-là, ils peuvent, si derrière ça suit, ils peuvent faire mieux que l'année dernière. Ouais.
Grégory, la défense, clé de la saison de Minnesota.
Ouais, oui, bah très clairement, c'est vrai que Mike Zimmer le disait lui-même, c'est quasiment du jamais vu hein, dans une escouade défensive coachée par Mike Zimmer. On sait qu'il y a eu des changements au niveau du coaching staff l'an passé, avec notamment le fiston hein, Zimmer, je crois que qui a notamment les mains dans tout ce qui est défensif. Et pour le coup, ouais, c'est la transition ne s'est pas faite sans dégâts. Que ce soit la ligne défensive ou le backfield défensif, ça a été une plaie permanente tout au long de la saison. La bonne nouvelle pour Minnesota, c'est que ça a été fortement considéré avec des recrues intéressantes. Si je parle que du premier rideau, on va suivre. Alors, il y a toujours cette incertitude autour de la situation de Danny Hunter, mais bon, a priori, il est parti pour revenir. Donc, on espère en tout cas du côté de Minneapolis qu'il va pouvoir revenir à son meilleur niveau. Et puis, en effet, sur l'intérieur, réincorporer, faire revenir un joueur comme Sheldon Richardson, qui est capable d'apporter de la pression justement de l'intérieur aussi, c'est pas forcément un mauvais calcul. Donc, ouais, et puis bon, c'est des joueurs revanchards en plus. Patrick Peterson, par exemple, sur le backfield, c'est extrêmement revanchard également. Donc, voilà, avec une escouade de linebackers qui, pour moi, faisait quand même le boulot. C'était une des rares escouades qui me décevait pas trop du côté de Minnesota. Faut voir éventuellement ce que ça peut donner, mais en tout cas, oui, très clairement, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup mieux. Et enfin, je dirais, du côté de Minnesota, d'avoir deux escouades au même niveau, parce qu'on a longtemps eu une défense très bonne et une attaque qui balbutiait quand il fallait conclure. Là, pour le coup, l'année dernière, on était plutôt dans le phénomène inverse, et ce serait bien que tout se mette à peu près à l'unisson pour être plus dominant en NFC Nord.
Alors, la transition est toute trouvée. Merci, Grégory. Lucas, est-ce que la grande force et l'atout numéro un de Minnesota, c'est évidemment cette attaque qui était quatrième de la Ligue l'an dernier?
Oui, clairement, clairement, parce qu'il y a déjà Dalvin Cook. Dalvin Cook, à chaque fois qu'on le regarde, on a l'impression que bon, il fait un match, il fait un très bon match, mais est-ce que ça va continuer? Et puis il fait une très bonne saison, et puis bon, est-ce que ça va continuer? Et puis il fait deux. Et en fait, il s'impose vraiment comme un running back sur qui on peut compter, un running back qui peut porter une attaque. En plus, on ajoute un Justin Jefferson qui est arrivé et qui est très bien arrivé. Kirk Cousins qui fait une relativement bonne saison l'année dernière. En effet, l'attaque de Minnesota, c'est vraiment la force de cette équipe, je me répète. Et tu le disais, quatrième. Je suis même surpris qu'il soit quatrième, mais au final, c'est mérité parce que quand on cite tous ces joueurs-là, on se dit que c'est normal.
Je sais que Kirk Cousins n'est pas toujours là dans les moments chauds, mais il y a quand même des équipes qui aimeraient bien avoir un quarterback à 35 touchdowns et 13 interceptions par saison, non, Greg?
Surtout avec cette ligne.
Oui.
Pour le coup, voilà, c'est vrai. Mais bon, ça a toujours été le grand problème de Kirk Cousins. Ça, on sait que ça a toujours été un quarterback un peu décrié. Alors peut-être que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus esthétique. En effet, tu l'as dit, il y a des moments peut-être où il y avoir tendance, à se liquéfier. Malgré tout, ouais, si on regarde ton parcours à Washington, ça a souvent été taxé d'usurpation quand il était sous le tag et il a enchaîné les saisons plus qu'honorables. À Minnesota, il a traîné comme un boulet, je pense, son contrat exclusivement garanti, mais en attendant, je ne suis pas sûr que Minnesota, même si là, on commence à sortir un petit peu d'une fenêtre de tir, parce que ça commence à être un quarterback peut-être un petit peu plus vieillissant, en tout cas, dont on ne sent pas forcément qu'on arrive à tirer plus que ce qu'on en tire actuellement, avec les cibles qu'il a à disposition. Mais en attendant, oui, ça reste quand même un quarterback extrêmement correct de NFL, qui est capable de faire des différences. Et je te rejoins, oui, c'est sûr qu'un bilan de 35-13. Quand tu vois en effet que. Alors certes, quand tu as un jeu au sol qui est capable de te retirer un petit peu de pression, c'est bien. Mais quand tu as une ligne qui ne te laisse pas forcément systématiquement du temps pour lancer tes ballons, c'est quand même une belle performance en soi.
Lucas, Kirk Cousins, ça peut aller loin.
Oui,
Ça fait le
parce que
taf.
ça fait le taf, ça fait même très bien le taf. Alors oui, c'est peut-être pas dans les tout meilleurs quarterbacks de la ligue, c'est pas peut-être pas Aaron Rodgers, c'est peut-être pas Patrick Mahomes, mais vous faites tous les deux nom de la tête, en effet. Mais par contre, ça fait partie des bons quarterbacks, ça fait partie des quarterbacks qui vont pas faire d'erreurs qui sont rédhibitoires ou peu. Et du coup, quand il est bien entouré, malgré cette ligne offensive, ça peut aller loin, oui.
Est-ce qu'il y a des points positifs de la défense, en tout cas, que tu voudrais mettre dans les points positifs?
Oui, ben, moi j'aime bien cette ligne de linebacker. Greg en a parlé. Kendrick, ça fait partie des bons linebackers. Anthony Barr, c'est un petit peu irrégulier, mais ça peut être efficace. Et puis il y a eu pas mal de recrutements qui pour moi sont des recrutements intelligents au niveau de cette ligne défensive, avec normalement le retour de Hunter, comme le disait Greg. Et du coup, les deux premiers rideaux font partie des points forts, ou pourraient faire partie des points forts.
Ouais, Daniel Hunter, Michael Pierce, Delvin Tomlinson, Steven Weatherly sur la ligne, ça a plutôt une allure correcte, hein. Il y a Sheldon
Sheldon
Richardson
Richardson.
dans la rotation.
Ouais, je trouve qu'ils ont des jeux de loups assez intéressants, si je peux parler ainsi. Des profils comme Kenny Willekes, alors qui est peut-être plus un peu besogneux côté run stop. DJ Wonnum, on a vu quelques petites choses également l'an passé. Je suis très intrigué de voir ce que peut apporter un Patrick Jones également en defensive end, qui a été drafté, je crois, troisième ou quatrième tour. C'était troisième tour en avril dernier. Donc oui, non, franchement, il y a une densité, je trouve. Et puis oui, je parlais de Richardson, c'est vrai que tu mets Michael Pierce et Dalvin Tomlinson, tu as quand même pas mal de viande sur l'intérieur aussi. Donc je pense que pour considérer les deux aspects, la passe et la course, c'est pas forcément une mauvaise chose du côté des Vikes.
Donc, si je vous écoute, on met la couverture aérienne dans les points faibles.
Alors pour ma part, je ne la mettrai pas dans les points faibles, mais plutôt dans les facteurs X, si on
Pareil.
peut
OK.
avoir cette transition rapide, ou si tu veux qu'on enchaîne sur les points faibles plus tôt, mais
Eh
ouais, c'est
ben,
comme ça que je le vois.
on peut parler du facteur X, on reviendra sur la ligne après, puisque c'est tout ce qui nous reste, et je comprends que c'est un point faible. Donc, la couverture aérienne, pour finir sur la défense, c'est un facteur X pour tous les deux, si je comprends bien, Lucas.
Oui, pour moi, c'est un facteur X parce que l'année dernière, elle était très mauvaise, tu l'as dit. Mike Zimmer l'a vu, il a fait beaucoup de recrutements. Maintenant, est-ce que les recrutements vont être payants? Tu as cité certains noms, Patrick Peterson, oui, il est revanchard, mais il est plutôt jeune. Bashaud Breeland, c'est très irrégulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Il peut sortir une très bonne saison comme une saison un peu plus compliquée. Xavier Woods, pourquoi pas, associé à Harrison Smith, ça peut être un bon duo de safety, mais j'ai du mal à être vraiment convaincu et me dire que obligatoirement cette défense aérienne va s'améliorer. C'est pour ça que pour moi c'est un facteur X. Je dis pas que c'est pas des bons recrutements, simplement que je suis moins convaincu que les recrutements de la ligne défensive.
Ouais, on va dire que voilà, c'est à mettre en contradiction un peu avec le changement Xavier Woods, Anthony Harris, mais on va dire qu'il y a quand même malgré tout quelques leaders vocaux, je pense, dans cette escouade défensive, qui peuvent être symbolisés notamment par l'arrivée de Peterson. Après, c'est vrai qu'en termes de playmaker, c'est compliqué. Si la ligne a autant de difficultés que ce qu'on a pu en voir la saison dernière, il faudra peut-être pas s'attendre à voir Minnesota collectionner les interceptions cette saison.
Ça m'inquiète un peu, mais je peux comprendre que, a priori, s'il y a relance de Peterson, si, mais ça peut être aussi très très compliqué. Pourquoi ils peuvent perdre ? Donc, a priori, cette ligne offensive vous inquiète pas mal. Il faut dire que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de nom rutilant au moment où je vous parle. Brian O'Neill, Olisameka Udo, Garrett Bradbury, Ezra Cleveland, Rashod Hill. Il y a Christian Dariso, le rookie qui a été drafté pour éventuellement prendre une place. Mais il n'y a vraiment pas de promesse pour Kirk Cousins d'être tranquille cette année.
Bah moi, les deux noms qui me rassurent le plus, peut-être, c'est O'Neill et Bradbury. Alors, on se parle. Après, oui, ça reste des profils relativement jeunes. Ezra Cleveland, je crois que c'était deuxième tour, hein, drafté en tant que tackle et qui, a priori, devrait plus être intégré sur l'intérieur de la ligne. Et c'est vrai que là encore, c'est en fait, si tu veux, Minnesota, ça restait une équipe assez dominante malgré tout sur le jeu au sol, mais beaucoup plus douteuse, on dira, sur le pass pro. Si tu prends un profil comme Christian Dariso, quand tu vois ce que tu en as vu du côté de Virginia Tech, tu te dis sur le jeu au sol, il va se faire plaisir aussi. Sur le pass pro, voilà, si tu balances directement tackle gauche dans une escouade qui est encore en manque de repères dans ce domaine-là, ça va peut-être pas se faire en 2-3 jours toute cette histoire. Donc voilà, il y a un Wyatt Davis qui est très intriguant également, un rookie d'Ohio State, hein, blessé tardif en sortie d'université, mais qui en pleine possession de ses moyens également plus sur le jeu au sol peut vraiment être impressionnant. Donc on peut encore avoir un Dalvin Cook qui va courir pour 3 milliards cette saison, mais c'est vrai que sur le pass pro ça peut être un gros gros point d'interrogation, et c'est pour moi le principal point faible, la protection du QB cette année.
Donc les calendriers, ou tu avais quelque chose à ajouter sur la ligne, Lucas ?
Simplement dire que tu parlais de Bradbury, le centre. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est l'intérieur de cette ligne. Et je voyais une statistique passer, c'est que sur les 39 sacs qu'ils ont encaissés l'année dernière, il y en a 20 qui viennent de l'intérieur de la ligne. Mmh. Et du coup, ils sont allés chercher Dariso, qui est censé être à l'extérieur de la ligne. On va voir ce que ça donne. Comme tu disais, il y a O'Neill qui est pas un mauvais joueur. Mais j'ai l'impression que l'intérieur de la ligne n'a pas forcément été changé ou modifié. Il y a Wyatt Davis, on va voir ce que ça peut donner en garde, mais du coup j'ai l'impression que le problème qu'il y avait l'année dernière sera de nouveau présent cette année, et du coup on n'avance pas.
Le calendrier, ça commence avec les Bengals à l'extérieur, Cardinals à l'extérieur, Seattle, Cleveland, Détroit, Panthers à l'extérieur, repos en semaine 7, ensuite Cowboys, Ravens à l'extérieur, Chargers à l'extérieur, Packers, 49ers à l'extérieur, Lions à l'extérieur, Steelers, Bears à l'extérieur, Rams, Packers à l'extérieur et Bears pour terminer. C'est pas un calendrier facile hein, pour cette équipe de Minnesota. Lucas, combien de victoires pour toi ?
Ouais, 4 heures de maths le mardi soir, c'est compliqué. Moi, je dirais, je me suis mis 8-9 parce que, encore une fois, je savais pas. Je les vois à l'équilibre et j'hésitais entre 9-8 et 8-9. J'ai mis 8-9 parce que, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, il y a du mieux, mais pas beaucoup mieux.
Grégory, 8-9 pour moi aussi. Donc
moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est leur début de calendrier. Hein. S'ils se prennent les pieds dans le tapis à Cincinnati en entrée, derrière, ouais, tu le disais, t'as quand même Arizona à l'extérieur, Seattle et Cleveland à la maison. On se rappelle que, ouais, ils sont pas passés loin d'un mauvais début de saison l'an passé, notamment lors du déplacement à Houston. Faudrait pas qu'on se retrouve dans une nouvelle situation un peu périlleuse d'entrée. Je pense que ça peut conditionner pas mal de choses.
Et est-ce que ça peut coûter la place à Mike Zimmer aussi?
J'aime quand même globalement le statut de cette équipe. J'irais vers un franc 9-8. Mais franchement, c'est compliqué parce que pour moi, il ne faut pas grand-chose pour que ce soit une équipe qui finisse peut-être troisième, parce qu'encore une fois, les Lions, c'est en grosse reconstruction, mais qui passe d'une équipe troisième de la division à une équipe qui peut enquiquiner Green Bay. Donc moi, c'est pour ça, pour l'instant, je suis encore dans l'entre-deux. Et j'irai sur une fiche de 9-8 parce que ça me paraît sévère, une fiche négative.
Ouais, bon, on est à peu près tous dans les mêmes eaux. C'est là que le 8-8 nous manque, moi, je trouve. On est orphelin du 8-8 parce que ça donne quand même l'impression que tu prends parti si tu les mets en négatif ou en positif, alors que ça se joue une victoire. Mais du coup, moi, j'étais en négatif. Je suis à 8-9. Ils étaient à 7-9 l'an dernier. Il tourne quand même un peu dans ces eaux-là. Je regardais Mike Zimmer où il en était. 7-9 l'an dernier, 10-6 avant, 8-7-1, 13-3, 8-8, 11-5, 7-9. Voilà, c'est un peu soit très moyen, soit il a des sauts, mais je vais être à 8-9 aussi sur les Vikings.
Mais du coup, c'est des playoffs une année sur deux. Sachant que les dernières, c'est 2019.
C'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il fait les playoffs en 2019, 2017, 2015. Donc, comme on est sur une année impaire, normalement, on y est. Il fait les playoffs sur toutes ces années impaires de coaching, Mike Zimmer. Donc, voilà, on voit les tendances. Et pour finir et pour rebondir sur ce que disait Lucas, les 4 heures de maths en fin de journée, c'est pas évident. Mais moi, j'ai testé 4 heures de philo le samedi matin, sinon, c'était pas mal aussi. C'est particulier au moment où il te l'annonce. Tu sais que tu vas passer tout ton samedi matin avec ton prof de philo. Bon, si vous avez des anecdotes, évidemment, sur vos emplois du temps de lycée, n'hésitez pas. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette preview de Minnesota. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. On remercie évidemment tous ceux qui nous écoutent. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TD Actu, le site. Les réseaux sociaux, c'est @TD Actu, Facebook @TD Actu. Et Instagram @JeanActu en entier. Il faut que j'y arrive, je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. Merci beaucoup Grégory Richard, merci beaucoup Lucas. Voilà, on se retrouve demain pour une preview très attendue puisqu'on parlera de New England, les Patriots, évidemment. À demain.